faire un atelier sur intitulé catégorisation dans le recrutement, stéréotypes de genre. Et on entendra trois groupes d'intervenants. D'abord, on va entendre Oumaya Idri Ness de l'Université de Lille 2. Si je me perds, de l'Université de Lille 2, donc maîtresse de conférence HDR à l'atelier Sherpas. Et on excusera l'absence de Yamina Meziani Remichi de l'Université de Bordeaux-Ségalen du centre Émile Durkheim qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, ensuite on écoutera Sébastien Beauvais du centre Maurice Alvache et de l'université de Silésie en Pologne. Voilà. Et puis ensuite, je vais y arriver avec les noms. Hein. ensuite, on écoutera Julien Bonneville de l'Institut des études de genre de l'Université de Genève et Olivia Kilias de l'Institut d'anthropologie sociale de l'Université de Zurich. Voilà, et puis on aura enfin une discussion de Sophie Bernard de l'Université Paris-Dauphine. Vous avez 20 minutes. Et je vous mettrai la pression pour tenir les temps. Je vous laisse la parole. Bonjour
à toutes et à tous. La communication que je vous présente aujourd'hui s'intitule « Il faut que ça colle, le recrutement des adjoints administratifs dans une collectivité territoriale ». Et je vais d'abord commencer par resituer le fondement de cette enquête qui tombe un petit peu du ciel par rapport à ce qu'on a déjà entendu ce matin. En fait, depuis une quinzaine d'années, des chercheurs, notamment des sociologues, se sont intéressés au poids des apparences physiques lors du recrutement sur le marché du travail, malgré l'existence d'un cadre législatif français antidiscriminatoire. Et ces travaux se sont exclusivement concentrés sur le secteur privé, tant il semblait entendu que les modalités de recrutement y étaient moins objectives que dans le public. Il faut dire que dans la fonction publique, le concours constitue la norme de recrutement et ce concours est supposé garantir à la fois l'intérêt général en sélectionnant les plus qualifiés et l'intérêt particulier assurant ainsi les candidats d'être jugés sur leurs seules compétences. Par l'anonymat qu'il préserve, ce concours de recrutement renvoie donc à l'exercice d'un jugement déconnecté des situations et des personnes, alors que dans le secteur privé, du fait de la raison d'être de ces entreprises, les candidatures font systématiquement l'objet d'une appréciation humaine. D'une part parce que les recruteurs ne peuvent pas se baser sur le seul fondement de techniques automatisées pour prendre leurs décisions, et d'autre part parce qu'ils disposent de la liberté de choisir leurs collaborateurs. L'enquête Offer en 2005 a d'ailleurs montré que l'apparence physique, la présentation, le soin général constituaient des critères importants au moment du recrutement. Ils étaient activés par 81% des recruteurs interrogés dans cette enquête. Ces modalités de recrutement, différentes dans les secteurs privés et publics, invitent le sens commun à penser que, au contraire du second, le premier exempte les candidats à l'embauche des pratiques discriminatoires. Il y aurait ainsi deux poids et deux mesures. Des apparences physiques, la fonction publique recrutant ses fonctionnaires selon leurs seules compétences et le privé cédant un peu plus facilement aux sirènes d'un habit faisant le moine. Deux éléments ont déclenché notre enquête. Le premier est d'avoir constaté qu'en dépit du cadre juridique qui existe, les discriminations dans la fonction publique ne sont pas un phénomène marginal. Près d'un quart des agents publics estiment y avoir été confrontés en tant que victimes et près d'un tiers en tant que témoins, selon le dernier baromètre 2016. Le second élément tient à ma rencontre avec Yamina Meziani Remichi lors du colloque qui s'est tenu à Évry en décembre 2012. Elle devait très prochainement réaliser une enquête auprès d'une mairie de la région d'Aquitaine qui compte 60 000 habitants à peu près et 1 000 agents à peu près. Nous avons discuté de la possibilité de comparer privé versus public en ce qui concerne le recrutement du personnel d'accueil. Nous nous sommes vite rassurés sur la possibilité de mener cette comparaison, d'abord parce que nous avions toutes les deux considéré le recrutement comme un processus institutionnel porté par des acteurs bien identifiés et ponctué d'étapes successives au sein desquelles nous tentions de comprendre la formulation des jugements et des prises de décision. En second lieu, nous avons veillé à ce que les conditions concrètes d'exercice de l'activité des personnes enquêtées partagent suffisamment de caractéristiques communes pour supporter la comparaison. Et donc, notre regard s'est orienté vers les agents d'accueil de la fonction publique et les employés de commerce du secteur privé, tous appartenant à la catégorie socio-professionnelle des employés. Sans neutraliser toutes les variables inhérentes à chaque contexte, les agents d'accueil de la fonction publique territoriale et les hôtes d'accueil de la grande distribution ont constitué à nos yeux des catégories empiriquement pertinentes pour donner sens à la comparaison. Nous avons donc versé au pot commun nos résultats bruts, on a travaillé ensemble la grille d'analyse, puis orienté de nouvelles phases de collecte de données. Et cette étude comparative a donné lieu à une publication dans la nouvelle revue du travail. Dans le cadre de cette communication, nous avons décidé d'axer vraiment notre attention sur le poids des apparences physiques dans le recrutement des adjoints administratifs, donc de la fonction publique territoriale. Ils relèvent du front office, ils sont à l'interface entre l'institution et la population locale. Pourquoi ce choix ? Parce que seule l'étude du recrutement des adjoints administratifs de la FPT a constitué un laboratoire d'études originales qui nous a amené à croiser différents axes de la différenciation sociale, pour reprendre les propos de Selma Bilge. Je vais d'abord m'intéresser aux modalités d'accès à l'emploi. Pour recruter un agent d'accueil, les directions des ressources humaines s'appuient sur des modèles de fiches de poste édités par des centres départementaux de gestion pour la fonction publique territoriale, et ils aménagent quelques paragraphes pour montrer les spécificités du service d'affectation. À Montlieu, la ville qui a été enquêtée, les activités et les missions qui sont dévolues aux agents de la FPT et qui ont des fonctions d'accueil relèvent uniquement de la gestion administrative et de l'accueil. Une formation en secrétariat et ou en accueil est donc souhaitée, et les compétences attendues renvoient finalement uniquement aux compétences cognitives, techniques, sociales de la relation de service. À ce stade du processus de recrutement, aucune mention n'a été faite au poids des apparences physiques. À première vue, le concours sur épreuve anonyme constitue le modèle prioritaire de ce recrutement dans la FPT. Personnel de catégorie C qui peut parvenir à cet emploi par trois concours, le concours externe, le concours interne et le troisième concours. Ces trois concours se décomposent systématiquement en deux phases, une admissibilité d'abord, qui se caractérise par deux épreuves écrites et anonymes, faisant l'objet d'une double correction à l'aveugle. Et lorsque le candidat est déclaré admissible par le jury, il accède à la seconde, l'admission, qui est un oral. Et à l'exception de cette épreuve orale d'admission, les modalités de sélection demeurent anonymisées tout au long du processus. La distance entre les futurs employeurs et les employés, les candidats, au processus du recrutement paraît donc plus grande que dans le privé, dans la grande distribution. Mais pourtant, trois éléments nous ont incités à penser que cette distance était souvent mise à mal. Premier élément, les concours territoriaux sont dits de réserve, c'est-à-dire qu'ils ne délivrent pas un accès direct à l'emploi, mais plutôt une inscription sur une liste d'aptitudes alphabétiques de portée nationale. Il revient donc au candidat de postuler dans les collectivités dans lesquelles il souhaite s'insérer. Et ces épreuves ne sont plus anonymisées. Elles reposent sur l'analyse d'un CV, d'une lettre de motivation, de la préparation d'un jury et de l'évaluation lors d'un oral avant la nomination. Si le nombre de candidats admis est défini par le nombre de postes ouverts, il arrive donc, par le jeu des épreuves de sélection et de la concurrence, que certains candidats qui possèdent le concours ne soient pas recrutés. On peut donc considérer le concours de recrutement plutôt comme une épreuve de présélection. Le deuxième élément, c'est le fait que le concours ne soit plus une condition sine qua non pour accéder au poste d'adjoint administratif, puisque la loi de 2007 a permis d'ouvrir le recrutement sans concours au personnel de la catégorie C. Et dernier élément, pour satisfaire les exigences locales, certaines modalités juridiques comme le pacte ou les contractuels sous CDD, par exemple, permettent aux collectivités de recruter par le biais d'une candidathèque, c'est-à-dire un recueil de CV potentiels, et par des entretiens qui ne sont plus face à un jury, mais des entretiens individuels avec tout simplement un chef de service ou un DRH. Le modèle de l'évaluation anonyme des capacités des agents de la fonction publique territoriale régresse donc au profit d'une individualisation de la sélection, et cette dernière est plutôt conforme au modèle du marché du secteur privé. Je vais maintenant m'intéresser à l'analyse des dossiers de candidature. Dans les collectivités territoriales, les jurys de présélection sont organisés. Alors, il s'agit souvent de 5, 6, 7 personnes. On y trouve un spécialiste des ressources humaines, DRH ou assistant RH, le chef de service, le chef de département et un ou plusieurs élus. En s'appuyant sur une liste alphabétique des candidats, ils débattent des éléments plutôt favorables ou plutôt défavorables de chaque candidat. Et pour les identifier, aucune grille commune n'a été relevée dans nos observations. En 2 heures, 30 candidatures sont traitées, 7 candidats sont convoqués pour la deuxième phase de sélection. Et considérant les critères repères qui sont mobilisés pour ce recrutement, on constate que la formation suivie, les diplômes obtenus, l'obtention éventuelle du concours, des expériences antérieures sont considérés comme des moyens privilégiés d'accès à l'entretien devant le jury. Les lettres de motivation sont à peine lues, elles sont surtout évaluées sur leur aspect formel, la propreté, la lisibilité, etc. Les lettres de recommandation ne sont que peu retenues. Donc, dans le premier niveau de sélection des agents d'accueil de la FPT, il y a une vraie focalisation sur les écrits, très peu sur les apparences physiques. Il a quand même été constaté quelques mentions sur les photographies qui sont parfois associées au CV. Mais globalement, très peu de membres des comités de présélection observés en font mention. Cela change lorsque la situation devient en face à face, c'est-à-dire lors de l'appel devant les jurys collectifs. Le deuxième niveau de sélection consiste en effet en un entretien face au jury, sachant que le jury donne un avis qui n'est que consultatif puisque l'avis décisionnaire revient au maire. Les entretiens durent à peu près entre 20 et 30 minutes. Ils se décomposent en 4 parties. La première invite le candidat à se présenter sans consigne particulière durant 4-5 minutes. Puis les professionnels interrogent la formation, l'obtention du concours, les expériences antérieures. Donc on retrouve les mêmes critères repères activés lors de la première phase de sélection. Ensuite, les chefs de service ou de département interrogent le candidat sur ses motivations, entre guillemets motivations, ça reste un terme un peu fourre-tout, où on retrouve des questions sur les expériences antérieures, sur sa satisfaction à se présenter à ce poste et sur le pourquoi de cette candidature. Enfin, l'un ou plusieurs élus interrogent le sens du service public. C'est un terme qui revient souvent. Et ce sens du service public renvoie aux connaissances de la mairie, de ses services, des habitants du quartier, essentiellement. Donc des entretiens qui permettent au jury de dépasser des connaissances qu'il serait à renvoyer exclusivement à des titres, à des diplômes ou encore à des durées d'expérience. Durant les délibérations, les jurys se réunissent à peu près une demi-heure pour 10 cas, 10 candidatures. Et durant ces délibérations, les apparences physiques des candidats vont être scrutées, débattues, vont être très souvent mentionnées. En premier lieu, les membres de jury sont attentifs à ce que l'apparence physique des candidats serve la mission de service public. On retrouve dans cette expression qui est largement usitée des candidats qui en feraient trop, c'est-à-dire avec des tenues trop voyantes, des décolletés trop bas, un maquillage ou des bijoux trop voyants. Et puis les candidats qui n'en feraient pas assez, un jean pas repassé, des chaussures pas cirées, des chaussettes, etc., etc. On retrouve un discours assez général sur le style vestimentaire qui se doit d'être simple, classique, sobre, je reprends les adjectifs utilisés par les membres du jury. L'objectif pour le candidat est d'intégrer le moule des fonctionnaires. C'est aussi une expression fort usitée, laissant entendre par là qu'il faut non seulement pour être recruté être la personne, mais aussi présenter les normes de conduite, les normes d'apparence physique associées à ce groupe de personnes. Je reprends ici la thèse bien connue de Goffman. Au-delà de ces discours sur le trop peu ou trop pas assez, un élément va intervenir petit à petit pour désigner l'apparence physique à posséder pour être recruté. Et cette apparence physique intervient lorsqu'il s'agit d'apparier les agents d'accueil et les usagers. Autrement dit, les caractéristiques personnelles des candidats à l'embauche sont considérées tantôt comme des freins ou tantôt comme des leviers possibles aux relations futures des agents d'accueil avec leurs usagers. Je vous donne quelques exemples issus des discours recueillis dans les entretiens. Le responsable d'une communauté d'agglomération de la collectivité enquêtée s'est ainsi félicité d'avoir recruté un candidat baraqué, fort, qui pratiquait un sport de combat, et ça se voyait, pour un poste nécessitant des relations avec les personnes issues de la communauté des gens du voyage. Ou alors cette DRH qui justifie sa décision de prendre la moins compétente des candidates auditionnées le matin, en disant « j'ai pris cette candidate parce qu'elle est brune avec des cheveux frisés, je pense qu'elle est d'origine maghrébine, elle n'aura donc pas peur de se confronter aux difficultés des zones prioritaires ». Finalement, c'est lors de l'entretien d'embauche que les recruteurs accèdent à la majorité des caractéristiques personnelles des candidats. Et si certaines questions sont proscrites, notamment par la loi de 1992, certains éléments contenus dans l'apparence physique des candidats vont fournir des éléments de réponse silencieux, bien souvent trompeurs. Là, je ne reprends pas les travaux de Bruchon, Schweitzer, etc. Bien souvent trompeurs. Et c'est à partir de ces éléments contenus dans l'apparence physique des candidats que les recruteurs formulent un jugement de qualité en ayant situé, ils le pensent, ils le supposent, les candidats dans l'espace social et en ayant confirmé, ils le supposent aussi, une appartenance ethnique ou encore à une religion. L'objectif n'est pas d'écarter certaines candidatures en raison des motifs visés par la loi, par le cadre législatif, mais d'envisager sur la base de ces motifs visibles des possibilités de rapprochement ou d'éloignement supposés entre les candidats et leurs futurs usagers. C'est donc le fait de pouvoir rencontrer les candidats au poste d'adjoint territorial localement dans le cadre d'un entretien de recrutement que les recruteurs ont cette possibilité de jouer des apparences physiques pour forger leur jugement et prendre leurs décisions. Lorsque l'on compare donc les deux secteurs, privé et public, on aboutit à un rapprochement des modalités de sélection auxquelles on ne s'attendait pas du tout en débutant l'enquête. Si l'examen des fiches de poste, des profils de candidats ou des annonces d'offres d'emploi ne révèle aucune attente spécifique liée à la dimension physique de la relation de service, lorsque nous sommes allés au cœur des épreuves et notamment au cœur des entretiens d'embauche ou des entretiens de jury, les deux sont utilisés, nous avons pu rendre compte de ce poids des apparences physiques. On aurait pu croire dans la fonction publique territoriale, que le fonctionnement collégial adopté pour traiter les candidatures soit imperméable aux biais identifiés dans les entreprises de la grande distribution, par exemple, dans lesquelles les modes de recrutement se caractérisent par une succession de décisions prises par des acteurs agissant individuellement. Par exemple, les travaux de Musselin-Piguerre sur le recrutement des maîtres de conférences dans l'université française montrent que ce mode de décision collégiale limite la possibilité d'adopter des comportements discriminatoires, notamment par la publicisation de la procédure de recrutement et par la diversification de la composition de la commission de sélection. Et ça n'est pas du tout ce qui s'est passé dans la fonction publique dans la collectivité territoriale enquêtée. Le fait que la décision soit prise par un collectif de personnes, présente simultanément et devant trouver un accord commun à la fin du processus, autorise finalement l'expression de discrimination selon l'apparence physique. Il faut dire que les jugements formulés par les membres de ces jurys se font en interaction et sont en grande partie fondés sur la conformité entre la personne qu'ils ont face à eux et leur représentation de ce que font les personnes qui appartiennent à telle ou telle profession. Dans la fonction publique territoriale, le fait que les logiques et les pratiques de recrutement intègrent l'hétérogénéité des profils usagers introduit finalement une forme de diversité dans les profils recrutés, notamment en matière d'apparence physique, dans les candidatures retenues. Et c'est là que vient toute la différence entre la grande distribution qui a été observée et les collectivités territoriales. Dans la grande distribution, tout écart aux normes corporelles dominantes est sanctionné par un refus d'embauche Et à l'inverse, dans les collectivités territoriales, les objectifs peuvent aboutir au recrutement de certaines catégories de la population qui seraient par ailleurs discriminées. Donc finalement, ce que nous avons montré, c'est que la discrimination soit directe d'un côté ou positive de l'autre, elle s'appuie in fine sur l'apparence physique des candidats, qui est un levier vraiment silencieux et en même temps privilégié pour un cumul des discriminations. Je vous remercie de votre attention.